Banque Atlantique, grandir ensemble.
Onze heures à Paris, 9h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour, à demain Juan Gomez. Ne dites plus Americano pour commander un expresso allongé dans certains cafés de Montréal, mais un Canadiano. En ce jour de vote pour les législatives anticipées au Canada, malmenées par les États-Unis de Donald Trump, les candidats marquent leur distance vis-à-vis de leurs voisins. Deuil national ce lundi en Iran après l'explosion qui a fait au moins 40 morts dans le plus grand port du pays. 48 heures après, le feu n'est toujours pas complètement maîtrisé. Négligence ou intention, une enquête a été ouverte. En France, fin de cavale pour le suspect du meurtre de la mosquée de la Grande Combe dans le Gard vendredi. L'homme s'est rendu de lui-même en Italie. Selon le procureur, la piste de l'acte anti-musulman est privilégiée, mais ce n'est pas la seule. Et d'abord, ce reportage rare au Soudan, le Soudan déchiré par la guerre civile depuis plus de 2 ans maintenant, entre d'un côté l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, de l'autre les militaires, les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide du général Hemeti. Les forces armées avaient annoncé le mois dernier la reprise de la capitale, Khartoum, mais pas complètement. Plusieurs secteurs restent sous le contrôle des FSR au sud et à l'ouest, et les civils sont pris au piège. Reportage de notre envoyé spécial à Khartoum, Gaël Alex.
À Oumbada, dans la banlieue ouest de Khartoum, les habitants vivent au rythme des canons. Kafi Bourgane a 82 ans, il est à bout de force.
Quand on entend les bombardements, on se couche sous les lits pour se protéger. C'est terrorisant, c'est impossible de dormir. Jour et nuit, les FSR bombardent, puis l'armée bombarde. On ne peut pas fermer l'œil.
Samira Idriss a quitté sa maison du quartier d'Alara, encore tenue par les FSR. Avec sa famille, elle vit chez des proches à Oumbada. Malgré les tirs croisés, elle s'y sent plus en sécurité.
Les FSR venaient chez nous n'importe quand et ils criaient « Donnez-nous vos enfants, vos filles et tout ce que vous avez ». Et ils prenaient tout de force. Ils n'ont pas pris mes filles, mais mes voisins n'ont pas eu cette chance.
Les combats se rapprochent. Aïcha Mohamed Nourienne a décidé de partir. Ce jour, avec sa famille, elle quitte Oumbada et le logement de fortune qui les accueille.
Les FSR ont fermé les marchés. Il est très dur de trouver de la nourriture et il faut marcher des kilomètres pour l'eau. Nous sommes 3 familles ici et nous ne pouvons pas rester. Les hommes sont partis chercher de l'eau et de la nourriture. On décidera ensuite où aller.
Comme plus de 11 millions de Soudanais aujourd'hui déplacés, la famille d'Aïcha s'installera dans une école d'Omdurman, transformée en camp de fortune. Gaël Alex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
L'opération est baptisée Rough Rider, le cavalier brutal, opération américaine au Yémen contre les Houthis. Selon des médias proches des rebelles, une frappe américaine a visé ces dernières heures un centre de détention de migrants africains à Saada. C'est dans le nord du pays, c'est un de leurs fiefs. Le dernier bilan avancé par ces médias est de 68 tués. Les États-Unis affirment avoir frappé plus de 800 cibles au Yémen depuis la mi-mars contre les Houthis, donc qui perturbe le commerce mondial sur la mer Rouge et le golfe d'Aden. Jour de deuil national ce lundi sur tout le territoire iranien après l'explosion meurtrière dans le plus grand port du pays. Shahid Rajaï, c'était samedi, port stratégique près de la grande ville de Bandar Abbas au sud. 40 personnes ont perdu la vie, c'est le dernier bilan. Plus de 1200 sont blessés. Les autorités ont promis une enquête approfondie, Siavash Ghazi.
Près de 48 heures après les premières explosions, le feu n'est toujours pas complètement maîtrisé dans le port Shahid Rajaï. Le gouverneur local a affirmé ce matin que cela prendrait encore plusieurs heures. Hier, le président iranien s'est rendu sur place pour constater personnellement les dégâts. Surtout, le guide suprême iranien a demandé aux forces de sécurité et à la justice de mener une enquête et agir contre toute négligence ou encore action intentionnelle. C'est la première fois qu'une telle thèse est évoquée. Selon certains médias, des produits très dangereux ont été entreposés dans cette partie du port avec de fausses déclarations sur la nature de ces produits, les déclarant comme non dangereux. Selon les règles portuaires, les produits dangereux doivent être stockés dans une zone spéciale du port. Aucune précision n'a été donnée pour le moment sur la société qui a commandé ces produits, mais le porte-parole du ministère de la Défense a démenti les informations de certains médias étrangers qui ont affirmé que des produits chimiques importés pour fabriquer le combustible de missiles balistiques sont à l'origine de ces explosions. À la demande de l'Iran, la Russie a envoyé 3 avions bombardiers d'eau qui sont arrivés à Bandar Abbas pour aider les secouristes iraniens. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Téhéran qui accuse par ailleurs le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de dicter, je cite, la politique américaine dans les pourparlers entamés autour du dossier nucléaire iranien. C'est la première fois que la Russie et la Corée du Nord le reconnaissent publiquement. Oui, des combattants nord-coréens sont bien déployés sur le front ukrainien. Le président Poutine a d'ailleurs remercié Kim Jong-un pour ce qu'il qualifie d'exploit des nord-coréens dans la région russe de Koursk, que Moscou affirme avoir libéré. Mais Kiev, de son côté, affirme que les combats se poursuivent. Et cela alors que les négociations sur l'Ukraine entrent dans une semaine cruciale selon Washington. Donald Trump dit croire que Volodymyr Zelensky serait prêt à renoncer à la Crimée occupée par la Russie depuis 2014. Pour Moscou, c'est une condition à toute négociation. L'ombre du président américain qui pèse sur les élections législatives anticipées organisées ce lundi au Canada, guerre commerciale, menace d'annexion, tout cela a été au cœur de cette campagne entre les libéraux de Mark Carney, l'actuel premier ministre, et les conservateurs. Et sur fond de cette crise historique entre les deux voisins, il y a un sentiment de fierté nationale qui est monté chez les Canadiens, en particulier chez les Québécois qui font valoir leurs différences encore un peu plus que d'habitude. À Montréal, Nafia Liber.
L'americano n'a plus sa place dans ce café montréalais. Ici, cet espresso allongé s'appelle désormais le Canadiano.
Because of the tariff war.
C'est une arme de guerre commerciale savoureuse pour Sergueï, le barista. Et ça l'amuse de voir que le Canadiano s'est répandu de café en café, comme dans un nouvel imaginaire national qui ne mousse pas que dans les tasses.
Le drapeau canadien, il est plus en demande que jamais avant.
Marc-André décrit un engouement inédit pour sa boutique.
À Montréal, là, de vendre autant de drapeaux canadiens, c'est spécial.
Et jusque dans la circonscription souverainiste de Louis-Philippe Sauvé, l'effet se fait sentir.
Ça se voyait aussi dans le porte-à-porte.
Un défi pour ce député du Bloc québécois, rallumer chez ses électeurs la flamme souverainiste étouffée par ce sursaut d'attachement au Canada.
Monsieur Trump, ce qu'il veut, c'est nous faire paniquer. Restons calmes et n'ayons pas peur. Et gardons nos intérêts à l'esprit pour défendre la singularité non seulement de la langue et de la culture québécoise, mais aussi de son économie.
Car avec l'effet Trump, ce nouveau patriotisme canadien a changé la donne politique. Là où le Bloc québécois dominait les sondages encore à l'automne dernier, ce sont désormais les libéraux qui récoltent l'élan. Nafia Liber, Montréal, RFI.
Cette fin de campagne endeuillée par une attaque à la voiture Bélier qui a fait 11 morts à Vancouver. Eh bien, le suspect a été inculpé selon la police. Il a un lourd passé lié à la santé mentale. Une autre élection qui se profile au Vatican. Les cardinaux doivent décider de la date du conclave, de la convocation du conclave pour choisir dans le plus grand secret le futur chef de l'Église catholique pour succéder au pape François. D'après les règles du Vatican, ce conclave devrait s'ouvrir la semaine prochaine, en principe entre le 5 et le 10 mai. En France, fin de cavale pour le meurtrier du jeune Malien Aboubacar Cissé vendredi dans une mosquée du Gard à la Grande Combe. L'assaillant, né en 2004 de nationalité française, s'est rendu de lui-même dans un commissariat en Italie. Précision du procureur d'Alès, Abdelkrim Grini, au micro de nos confrères de BFM TV.
L'auteur présumé s'est bien rendu auprès d'un commissariat italien à Pistoia, exactement près de Florence, hier soir aux alentours de 23h, 23h30. Les circonstances, elles sont très simples, c'est que le dispositif et les moyens mis en œuvre ont été tels que celui-ci se savait activement recherché. Manifestement, il a été pris dans un étau et la seule alternative et la seule issue pour lui était de se rendre, ce qu'il a fait. Et j'en suis sincèrement très heureux aujourd'hui. Il s'est rendu seul, effectivement, pour le moment, il est seul. L'enquête va se poursuivre pour vérifier s'il a pu bénéficier de complicité sollicité, notamment pour prendre la fuite, pour quitter la France. Nous savions déjà depuis ce week-end qu'il avait quitté la France et qu'il s'était rendu en Italie. C'était juste une question de temps pour lui mettre la main dessus. Il s'est rendu, tant mieux, et j'en suis vraiment satisfait.
Voilà, Abdelkrim Grini, le procureur d'Alès. Et puis en France, encore une vaste opération de police ce matin en région parisienne, Marseille, Lyon ou encore Bordeaux. 25 personnes ont été interpellées après une série d'attaques dans des prisons. On retrouve tout de suite Caroline Paré pour Priorité Santé. Bonne émission.